Chers amis des cellules, bonjour. Alors que s'approche le temps de l'été, le temps des vacances scolaires, je voudrais réfléchir avec vous sur le sens du repos. Le repos est souvent vu, pour nous, comme une cessation d'activité. Nous étions en train d'accomplir un travail, une œuvre fatigante, et cette œuvre fatigante est suspendue. Voilà, l'effort s'arrête. Et l'on va avoir un temps aussi pour pouvoir restaurer nos forces. Donc il y a une cessation de l'activité, la possibilité de réparer nos forces, la possibilité d'arrêter le travail qui nous était imposé. De façon ordinaire, le repos signifie pour nous donc une cessation d'activité, une cessation de l'effort. Dans un deuxième temps, une restauration, une récupération de nos forces, mais aussi un troisième élément, une liberté retrouvée, sachant que la tâche à laquelle nous étions consacrés, ou parfois même asservis, est suspendue, nous retrouvons une maîtrise de notre action, une liberté de notre action. Nous voyons que cette conception du repos est très lié à la conception du travail que nous avons de façon ordinaire, le travail vu comme quelque chose de laborieux, quelque chose de pénible, quelque chose qui demande un effort, comme une contrainte qui pèse sur nous. Or, dans l'Écriture, cette façon de percevoir le travail comme étant pénible et laborieux est un effet, une conséquence du péché. Vous vous souvenez du texte de la Genèse après la chute, au chapitre 3, je lis à partir du verset 17, « À l'homme, Dieu dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi, à force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. » L'œuvre de l'homme est liée à la peine, à force de peine. La production n'est pas extrêmement réjouissante, épines et chardons, et c'est à la sueur de son visage que l'homme mangera son pain. Le repos apparaît donc face à cette vision du travail, à cette perception du travail comme un labeur. Le repos apparaît comme un répit, comme un soulagement. Cependant, il est intéressant de noter que la notion de repos n'apparaît pas avec cette vision du travail blessé par le péché. La notion de repos est envisagée dès la création et va concerner pas seulement une action de l'homme, justement, dans son travail, mais va concerner une action de Dieu dans le processus de la création. C'est ce fameux septième jour où Dieu se reposa. Eh bien, je vous propose maintenant, dans ce deuxième temps de notre exposé, de nous tourner, de contempler ce repos dans lequel Dieu entre pour achever la création. Je lis dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 1 à 4. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au septième jour il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent créés, au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. Fin de la citation. La première chose à remarquer, c'est que le moment où Dieu va chômer fait partie de cette œuvre de création. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il conclut l'œuvre de la création en chômant. Il conclut tout l'ouvrage qu'il avait fait en prenant ce repos. C'est important parce que ce n'est pas la création qui serait achevée et ensuite indépendamment commencerait un temps de repos. Le temps de repos est associée à cette œuvre de la création. C'est elle qui conclut l'œuvre de la création. Un peu comme on pourrait dire que le point final d'une phrase clôt la phrase. À la fois, il est différent des mots qui ont précédé ce point, mais ce point marque justement l'arrêt de la phrase. Il permet de comprendre que c'est la conclusion de la phrase et il en fait partie. De la même façon qu'une phrase sans ponctuation peut ne pas être compréhensible, ou en tout cas il y a une ambiguïté sur le sens de la phrase, eh bien la création sans la ponctuation par ce repos resterait ambiguë. Pour donner un exemple, les mots « tu es là », selon que vous mettez un point d'interrogation ou un point d'exclamation ou un simple point, eh bien ça ne veut pas dire la même chose. « Tu es là », point d'interrogation, « tu es là », point, « tu es là », point d'exclamation. La ponctuation change le sens, change la perception, la compréhension que l'on a de la phrase. Eh bien, le repos de Dieu, le chômage de Dieu à l'issue de ses jours de création, va en donner, va en conférer un sens particulier. Ce chômage de Dieu, après toute l'œuvre de création, va être l'occasion d'une bénédiction et d'une sanctification. C'est ce qu'on lit au verset 3 du chapitre 2. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Ce chômage est l'occasion d'une bénédiction, Dieu appelle le bien sur ce temps particulier, et même d'une sanctification, ce temps est fait proprement pour Dieu, il est mis à part pour Dieu, c'est le sens de sanctifier, être mis à part pour Dieu, pour participer à la vie de Dieu. Et donc, d'une certaine façon, sans ce septième jour, sans ce jour de repos, sans ce jour de chômage, l'œuvre de la création ne recevrait pas sa bénédiction et sa sanctification. C'est ce septième jour qui le clôt, qui clôt cette œuvre, qui le clôt d'une façon et d'une activité différente, qui permet la bénédiction et la sanctification de ce temps. Remarquons que cette bénédiction et cette sanctification sont une élévation de l'œuvre qui a été accomplie. Quand je dis une élévation, c'est pour le distinguer d'une restauration, pour le distinguer d'une guérison. Il n'y a pas encore eu le péché à ce moment-là, il n'y a pas besoin de guérison, mais pourtant il y a bien une élévation, c'est cette sanctification, être mis à part pour Dieu qui a lieu. Et de fait, le mot qui est utilisé pour désigner l'œuvre de Dieu, melacha, est un mot qui insiste pas du tout sur la pénibilité, il y a des mots hébreux qui insistent sur la pénibilité dans le travail, ou le travail pénible, là c'est un mot qui désigne l'habileté qui est requise, ou bien le résultat, la fécondité du travail qui a été effectué. Donc ce repos n'apparaît pas à ce moment-là comme une guérison d'une peine qui aurait été supportée, mais comme l'élévation d'une habileté et d'une fécondité qui ont été produites. Cela est très intéressant pour notre façon d'envisager notre propre travail et notre propre œuvre. En effet, le repos, du coup, ne va pas simplement se comprendre, même pour nous, simplement comme une cessation de la pénibilité et le temps d'une restauration de nos forces. C'est vrai, il y a bien cet élément. Mais le repos va se comprendre à la lumière du repos que Dieu a pris comme le moyen de faire bénir et d'élever, de rendre digne de Dieu, de rendre participant de la vie de Dieu ce que nous avons fait. Il y a un moment de pause pour que notre travail soit élevé. Il y a un moment sans lequel notre travail ne serait pas élevé. Ce repos permet une consécration du travail qui a été fait en le remettant à Dieu, en le contemplant avec le Seigneur, en le contemplant à sa lumière. Et donc, si nous voulons vraiment achever notre travail à la manière de Dieu, nous devons avoir régulièrement une pause pour contempler ce qui a été fait et pour le présenter au Seigneur. Il y a un moment où l'œuvre ordinaire doit cesser pour laisser la place à une contemplation devant Dieu, une contemplation avec Dieu, une remise à Dieu de ce qui a été accompli. Sans ce repos, sans cet arrêt, sans cette contemplation, notre travail, notre activité, en fait, n'atteint jamais son achèvement véritable. On retrouvera cet élément dans le sens qui est donné au sabbat. Avec la loi de Moïse, le commandement de la sanctification du jour du Seigneur est donné, la sanctification du sabbat à ce moment-là, et le sabbat porte deux significations. La première, qui est, on va dire, liée justement à la blessure du monde par le péché, qui va être une dimension de libération. Le sabbat est donné pour que l'homme fasse mémoire de l'histoire du salut. Le Seigneur a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Eh bien, le Seigneur nous libère également de l'esclavage du travail laborieux. Il nous permet de refaire nos forces, de restaurer nos forces. Il y a cet aspect de libération et de restauration qui est présent avec la mémoire de l'histoire sainte comme une histoire de libération. Mais il y a aussi un moment de contemplation, un aspect de contemplation dans le repos du sabbat, de contemplation de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de la création, et le dépôt dans les mains de Dieu de l'œuvre de transformation de cette création que nous-mêmes, êtres humains, avons fait conformément à notre vocation, à la vocation que Dieu nous a donnée de transformer le monde qu'il a créé. Donc même après la chute, un temps de repos nous est donné par Dieu qui va comporter non plus une mais deux significations, une signification de restauration, de libération par rapport à la pénibilité, et ça en mémoire de la libération de l'esclavage de l'Égypte, mais aussi cette signification, on pourrait dire plus ancienne, de contemplation de l'œuvre de Dieu dans la création, cette contemplation de la création, cette offrande de l'œuvre, cette remise de l'œuvre dans les mains de Dieu, sous le regard de Dieu, pour qu'elle atteigne son achèvement, pour qu'elle présente sa fécondité, pour qu'elle soit bénie et consacrée. Et donc, concrètement, quand nous-mêmes nous préparons un travail, nous avons à intégrer cette dimension où nous allons nous arrêter pour relire, pour contempler, pour demander cette bénédiction de Dieu et cette consécration sur l'œuvre qui aura été faite. Et ça peut être un petit temps, simplement, je dirais, le soir au terme de sa journée de travail, mais ça peut être un moment un peu plus long lorsque nous venons de terminer un projet qui avait été peut-être de longue haleine, ou bien, peut-être même, au terme d'une année, on prend quelques jours de retraite pour relire ce qui a été fait sous le regard de Dieu, en lui donnant, justement, par ce repos, l'occasion de bénir et de consacrer, de sanctifier ce temps qui a été vécu. Pour conclure, à la lumière de ce que fait le Seigneur, nous comprenons que le repos ne se réduit pas à une absence de labeur, de pénibilité. Il ne se réduit pas à une absence d'activité. Le repos est une ponctuation qui va permettre à ce qui avait été fait, de trouver, de donner son sens, et même de recevoir bénédiction et sanctification. Voilà. De la même façon, je disais qu'une phrase reçoit son sens de la ponctuation qui l'accompagne, eh bien le travail de l'homme trouve son sens par ce repos consacré au Seigneur, et consacré aussi par le Seigneur, qui lui donne sa bénédiction et sa fécondité sanctifiée. Du coup, ce serait une pratique conforme au dessein du Seigneur de chaque jour, au terme de notre journée, nous arrêter un instant pour relire, déposer ce qui a été fait devant le Seigneur. Pour au terme de notre semaine, le dimanche, s'arrêter pour présenter, déposer, demander la bénédiction et la sanctification du Seigneur sur ce qui a été accompli, et de même, à la fin de chaque année, avoir ce temps de retraite pour relire, déposer, demander au Seigneur de sanctifier ce qui a été fait. Voilà. Que le repos ne soit pas pour nous simplement une restauration et un arrêt de la pénibilité, ce qu'il est, hein, et ce qui est nécessaire aussi, je ne dis pas du tout que cela n'est pas bon, mais que la dimension du repos va au-delà de cette simple restauration en étant une véritable sanctification. Puissions-nous le vivre pleinement. Je vous souhaite de bons échanges.